Salut à tous, premier numéro de la saison 3 à la une de Transport Vert. Il est le train à vocation de transport urbain, circulant en mode guidé sur site propre intégral. Il circule en souterrain comme un aérien, il dispose d'une plateforme qui lui est propre. Il est entièrement guidé sur tout l'espacement des trains régulés par un cantonnement contrôlé par un système d'exploitation centralisé. Aujourd'hui, on parle du métro sous deux systèmes différents. C'est Théo et bienvenue dans Transport Vert.
Transport Vert par Théo Torné.
Ravi de vous retrouver dans Transport Vert pour cette saison 3, l'émission où on parle de transport et on confronte deux mobilités. Aujourd'hui, on va plutôt confronter deux technologies différentes sous le même mode de transport. En effet, depuis le premier numéro de la saison 1, on est passé du bus au train en passant par l'avion, le vélo et la trottinette. Pourtant, on n'est pas passé par ce moyen de transport. Et oui, pour les réguliers des transports parisiens, vous l'avez bien reconnu, c'est le métro dont on va parler aujourd'hui, et plus particulièrement des métros sur pneus. En effet, pour les habitués du métro, on constate que le métro n'est pas le même partout, et qu'en France, nous ne possédons que des lignes de métro sur pneus. Sauf pour la moitié des lignes à Paris, ainsi qu'une seule ligne à Lyon. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment le métro sur pneus est arrivé en France, et ses avantages et ses inconvénients face au métro sur le fer. Le thème de ce transport vert est la guerre des métros, le pneu contre le fer. Bon, tout d'abord parlons un peu d'histoire. C'est à Paris que va apparaître le métro sur pneus dans les années 1950. Avant que ce système soit exporté en France et dans le monde entier, il faut savoir que l'idée des trains sur pneus revient à l'inventeur du pneu lui-même, l'écossais Robert William Thomson. Il décrit sa roue arienne dans son brevet déposé en 1846 que le pneu est plus adapté au sol, corail ou à la piste sur laquelle elle roule. En 1920, André Michelin, qui va donner naissance à la société Michelin, spécialisée dans la construction de pneus, invente un pneu rail capable de rouler sur des rails conventionnels. À la fin des années 30, la CMP pour la Compagnie du chemin de fer du métropolitain de Paris, prédécesseur de la RATP, étudie la possibilité d'utiliser la technologie Michelin sur ses rames, mais le projet est en suspens en raison de la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, le réseau est très endommagé et nécessite d'importants travaux de rénovation. Et c'est dans ce contexte que le projet de métro sur pneus est à nouveau étudié comme moyen de répondre économiquement à la surcharge des lignes aux heures de pointe et de renouveler les très bruyantes rames Sprague de l'époque. Une voiture prototype, le MP51 pour matériel pneumatique de l'appel d'offres de 1951, est testée sur la courte voie navette de Pré-Saint-Gervais à Port-des-Lilas entre 1951 et 1956. L'expérience s'avère concluante, la RATP convertit la ligne 11 au roulement sur pneus. Les rames sur pneumatique MP55 de l'appel d'offres de 1955 commencent à y circuler le 1er octobre 1956 en parallèle de celles plus anciennes sur roues métalliques. Un an plus tard, la ligne n'est plus empruntée que par du matériel sur pneus. La ligne 11 ayant validé la technologie à plus grande échelle, elle est suivie par la ligne 1 en 1964, la 4 en 1967 et la 6 en 1974. Les rames des métros sur pneus sont caractérisées par des roues équipées de pneumatiques assurant la fonction de traction et de freinage. Ces roues, à l'inverse des roues à bandage d'acier sur rail, n'assurent cependant pas le guidage latéral des véhicules. Des solutions techniques ont été développées pour y remédier. Les rames portent donc également des roues horizontales dans différentes configurations assurant cette fonction. Pour que le métro puisse rouler, il faut une piste de roulement qui est composée de poutrelles d'acier à surface lisse ou crénelée pour améliorer l'adhérence des pneus sur temps humide, à rails en fer en cas de souci avec les pneus et des rails latéraux verticaux, ou barres de guidage servant de piste de roulement pour les roues horizontales. D'autres pistes existent pour chaque système. Avec ce nouveau mode de roulement, il a été possible de placer des lignes en automatique. Lille sera la première ville à se doter d'un métro automatique avec un système VAL pour véhicules automatiques légers, un métro de petit gabarit suivi de Orlyval en 1991, du métro de la ligne D de Lyon en 1992, de Toulouse en 1993, de la ligne 14 du métro de Paris en 1998, de la ligne D du métro de Rennes en 2002 et du CDG VAL en 2007. Par ailleurs, dans ces lignes de métro, il y a un conducteur à bord. On peut aussi passer en automatique, ce qui est le cas de la ligne 1 et de la ligne 4 de Paris en cours d'automatisation. Une première dans le monde puisque ces deux lignes ont pu passer l'automatisation sans interruption du trafic. Par rapport au métro sur fer, le métro sur pneus possède des avantages comme une accélération et freinage beaucoup plus efficaces, autorisant une vitesse moyenne commerciale plus élevée que sur les lignes avec de courtes interstations, une meilleure tenue de Route avec des courbes ainsi que le franchissement plus facile de pentes importantes permettant de construire les stations en surface et les voies en tunnel profond plus économiques. Par contre, les pneus présentent des inconvénients comme la variation de l'adhérence des pneus dans certaines conditions climatiques, consommation énergétique plus élevée pour des distances interstations de plus d'un kilomètre et des secousses régulières qu'en tunnel engendrées par l'élasticité des pneus. Avec la réussite à Paris, d'autres villes en France construisent des métros pneumatiques basés sur le système de Paris et même dans le monde entier. On aura en 1966 Montréal qui sera la première ville à inaugurer un métro entièrement sur pneus, suivi de Mexico en 69, Santiago en 75, puis Marseille en 77 et Lyon en 78. De plus, ce système a connu plusieurs variantes différentes, en effet inspirées par le système du métro parisien. Le métro de Sapporo au Japon, par exemple, est le premier du genre en 1971 à utiliser un rail de guidage central plutôt que des rails classiques. Alors que les métros lourds utilisent la technologie Michelin, commercialisée par Alstom, Bombardier et CAF, il existe des métros de petit gabarit, c'est le cas du système VAL, qu'on peut retrouver à Lille, Paris, pour le Charles de Gaulle et Orly-Val, Rennes, Toulouse, Turin en Italie et ailleurs en Asie de l'Ouest. On peut aussi retrouver d'autres métros de petit gabarit, dont l'Innovia APM de Bombardier et Crystal Mover de Mitsubishi. Attention à ne pas confondre avec le métro léger qui, lui, n'est pas utilisé avec un matériau de type métro. En effet, il s'agit d'un non commercial utilisé pour les tramways qui utilisent une section souterraine telle un métro. Il reprend les mêmes caractéristiques qu'un métro, mais avec un matériel beaucoup plus léger, en ayant tout l'avantage du métro et du tramway. Le terme de métro léger est très présent en Allemagne. Même si ce terme n'est pas utilisé en France, sauf pour Rouen qui appelle le tramway métro, on peut retrouver ce genre de section à Paris, à Lille, à Rouen ou à Nice. Voilà, vous savez un peu plus sur le métro sur pneus et les différences qu'elle a avec le métro sur fer. Vous comprenez maintenant pourquoi en France nous possédons que du métro sur pneus. Voilà, vous êtes maintenant des as de la mobilité. Fin de ce transport vert, les précédents numéros sont retrouvés sur podcast.rinfo.fr. C'était Théo, ciao tout le monde.
À l'écriture, au micro et au montage de cette émission, Théo Torné.
AR un podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.